L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison les invités de première partie. Aujourd'hui, c'est une suite, celle qui nous replonge dans l'archéologie de l'ancienne abbaye de Landévennec, du Moyen-Âge dans son immensité, puisqu'en gros, le Moyen-Âge, ça va du 5e au 15e siècle. Bon, l'ancienne abbaye est justement née aux alentours de 500. On a exploré avec l'archéologue Ronan Perennec les fouilles qui ont duré quelques 40 années, qui ont permis de mettre au jour un mobilier exceptionnel, mobilier au sens large, hein, ça va des trous de poteaux, des bases de murs, à la matière organique, en passant par bien sûr les objets. Et on va voir ça avec nos deux invités qui travaillent au musée de l'ancienne abbaye. Il y a la conservatrice Manon Olive et le médiateur Guénolé Ridoux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'est conservatrice, Manon, votre fonction officielle ?
Non, ma fonction officielle, c'est pas exactement ça. C'est plutôt chargée d'inventaire et de régie des collections.
Mais je crois que vous vous attachez quand même beaucoup à la conservation des objets.
Conservation préventive, avec Guénolé.
D'accord, tous les deux. Bon, c'est très bien. Donc, justement, vous êtes invités. Combien ? Alors, il y a 40 ans de fouilles quasiment. Hein, on imagine que ça fait énormément d'objets qui sont conservés sur place, donc voilà. Et combien, quel genre d'objets ? J'ai juste fait un petit portrait rapide, mais Guénolé.
Voilà, alors en fait, à l'ancienne abbaye de Landévennec, on a deux types de collections. On a ce qu'on appelle la collection patrimoniale, qui est la collection du musée. Et ça représente juste 2000 objets. Et par contre, on a la collection d'études, donc qui vient justement l'ensemble vient des travaux d'Annie Bardel et Ronan Perennec sur le site de l'ancienne abbaye. Mais cette collection d'études, c'est la grande masse des objets, puisque en fait, on estime qu'il y a à peu près 50 000 objets qui ont été retrouvés par les archéologues. Donc il faut s'imaginer qu'on a ces deux collections parallèles, et elles n'ont pas tout à fait la même vocation, parce que donc la collection patrimoniale, elle a été sélectionnée pour être présentée au public.
Mais ils ne sont pas tous exposés, les 2000 en ce moment, hein, on est d'accord.
Non, ils ne sont pas tous présentés. Oui. Ouais. Donc en fait, ça fonctionne principalement par en tournant, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre exposition permanente qui présente un certain nombre d'objets, et puis ensuite, on a surtout nos expositions temporaires qui nous permettent de montrer ces objets au fur et à mesure des années. Ouais. Mais ceux-là, en fait, ont vraiment vocation à être présentés au public, ils ont surtout aussi vocation à être conservés pour l'éternité, hein, parce qu'une collection de musées, ce n'est pas censé disparaître. Alors que la collection d'études, en fait, elle est conservée pour du court terme en principe, c'est-à-dire que c'est des objets fragiles qui ne vont pas forcément tenir à 50 ans. Et puis, elle a vocation à être étudiée. En fait, son objectif, elle, c'est d'être étudiée par des chercheurs. Et après l'étude par les chercheurs, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si on les conserve sur le long terme, ça demande un investissement, parce qu'il faut souvent les restaurer, ou alors si on a d'autres études à faire. Voilà. Bref, en tout cas, cette collection d'études, elle est temporaire.
Et la collection patrimoniale, quels sont les critères qui déterminent qu'on va mettre un objet dans la collection patrimoniale ?
Alors le choix qui a été fait donc en 2013, hein, c'est un choix qui a été fait cet inventaire a été sélectionné en 2013. En fait, c'était justement des objets qui n'étaient pas fragiles parmi la collection disponible, c'est-à-dire qu'il y a déjà des objets qui avaient été restaurés, et c'est très important pour un musée de s'assurer que les collections sont durables. Donc c'était le premier choix. Et puis ensuite, des objets qui étaient significatifs pour le public, parce qu'encore une fois, c'est des objets qui ont vocation à être présentés au public. Et du coup, leur intérêt, c'est aussi ça, c'est d'être lisible. Ça ne veut pas dire que c'est des objets les plus intéressants, parce que vous pouvez avoir des choses extrêmement intéressantes à l'échelle moléculaire sur un objet.
Oui, bien sûr,
dans la collection d'études, mais ça ne se verra pas pour le grand public. Et du coup, c'est ce double choix de la lisibilité et de la durabilité des collections.
Manon, Olive, ça ressemble à quoi le dépôt ? Il est sous terre ? Enfin, parce que c'est vrai qu'on là, de l'extérieur, on ne voit pas trop qu'il y a un dépôt.
Pour la collection d'études, alors, en majorité, elle se trouve effectivement sur le site de l'ancienne abbaye, dans la réserve archéologique. Donc dans une pièce avec une hygrométrie respectée aux normes, etc. On a une partie également en extérieur où c'est du lapidaire.
Donc les pierres, enfin...
Voilà, tout ce qui met éléments architecturaux, etc. On a aussi des bois gorgés d'eau qui sont actuellement en cuve. Et on a d'autres restes, notamment des restes animaux qui sont aussi conservés au CDA, au Fou.
Alors, le centre départemental archéologique, qui a son dépôt, on a fait un reportage il y a assez longtemps, mais vous le trouvez peut-être encore en ligne.
Voilà, et donc... Et donc, du coup, la typologie, pour revenir à ça, parce qu'on parlait du nombre, c'est 50 000 vestiges mis au jour. Et en termes de typologie, on va sur ce qui est la spécificité du site, c'est qu'on a énormément d'objets en matière organique.
C'est ça.
Parce que, Ronan Perenec l'avait dit précédemment, mais parce que le site a été installé au-dessus d'un ruisseau. Et qui est en fait, le ruisseau est devenu une nappe phréatique. Ça a permis la conservation de ces objets en matière organique grâce au milieu tourbeux et humide. Et donc, du coup, on se retrouve avec plein de bois, avec à la fois les bois de sépulture, du mobilier, le cercueil, le sarcophage qui se trouve actuellement dans le musée. Ça peut être un côté de banc. On a aussi des graines, de la végétation, des végétaux. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restes organiques. Ça passe aussi par les restes animaux, j'en parlais, mais aussi les restes humains.
Il y a des squelettes.
Voilà, on a plus de 250 sépultures qui ont été mises au jour par Annie Bardel et Ronan Perenec. Et ils sont actuellement, les squelettes humains du coup sont actuellement conservés sur le site de l'ancienne abbaye, dans la réserve.
Mais je les ai vus d'ailleurs, j'ai eu la chance de les voir au cours d'une conférence. Ils avaient été sortis pour l'occasion sur les pathologies des moines, enfin des personnes enterrées là-bas à l'époque.
Et ben voilà, en fait, c'est des études qu'on continue encore aujourd'hui. Et puis, c'est important de le rappeler parce que les restes humains en Bretagne sont très très peu retrouvés puisque les sols sont très acides.
Oui.
Et grâce à cette nappe phréatique et le milieu argileux, ça a permis la conservation à certains endroits du site de ces squelettes. Ça nous apprend énormément de choses aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être un peu.
Ouais. Les plus anciens remontent à quelle époque ?
À la fondation en fait, de l'abbaye. Ouais.
Ouais, donc ça. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de squelettes aussi anciens en Bretagne. Sur le plan la conservation elle-même, vous disiez un degré d'hygrométrie, des cuves. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, entre guillemets, à conserver ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est l'organique, j'imagine, mais...
Oui, c'est ça. Alors, ce qui coûte le plus cher, c'est, en fait, ça passe par les restaurations d'objets. Ça peut être du métal, les verres ou encore des sculptures en bois polychrome qui sont actuellement là, tout récemment, en restauration. Alors, celles-ci, je précise, elles n'ont pas été retrouvées sur le site, mais elles font partie de la collection patrimoniale. C'est un héritage des prémices du musée avant 1990. Et en fait, elles sont à l'effigie, on pense, de Saint-Guénolé. Donc, c'est pour ça qu'elles sont dans notre musée. Et donc, ça peut coûter relativement cher, comme on peut dire. Mais sinon, c'est en termes de temps et les facteurs, les multiples facteurs qu'il faut pour ce qu'on appelle la conservation préventive, ce qui arrive avant la restauration. Et donc, ça passe effectivement par de la veille sanitaire, l'environnement dans lequel va se trouver l'objet, que ce soit dans le musée, l'expo temporaire ou dans les réserves. Donc, il faut une hygrométrie qui soit respectée aux normes de l'objet, pas évidemment par rapport à la poussière. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que l'équipe de conservation, ou surtout Guénolé et moi, on doit faire une veille en fait,
ouais, c'est ça.
Permanente.
Vous regardez tous les objets, tous les combien, enfin, c'est... Alors, concrètement.
Du coup, ça répond à une de mes missions du fait qu'on soit musée de France, et ça passe par le récollement notamment. Donc on a le récollement de la collection patrimoniale, mais on ne peut pas faire sans la collection d'études puisqu'elle est présente. Donc du coup, en fait, on a décidé de faire un tout, donc un récollement recensement, et c'est par ce biais notamment que on peut voir l'état sanitaire d'un objet, qu'on peut faire un constat, on prend des photos, on prend des mesures, on s'assure aussi qu'il soit bien conditionné ou non, et puis ça va permettre d'élaborer certaines problématiques de pourquoi pas de restauration si on juge que c'est nécessaire à court, moyen ou long terme. Et puis ça passe aussi par l'exposition temporaire, ça Guénolé je pense qu'il reviendra dessus.
Oui, C'est oui, les expositions temporaires Ganelet, c'est l'occasion de regarder un peu comment vont les objets aussi.
C'est ça. En fait, tous les travaux sur les collections, les études aussi sont très importantes pour ça, permettent de voir les collections. Ensuite, Manon fait aussi des veilles, une veille, enfin des systèmes de, comment on pourrait dire, des rondes. Et ça, c'est tous les jours. Hein, c'est un travail quotidien. Et puis, effectivement, donc il y a les travaux fondamentaux sur les collections, donc les études, l'inventaire récollement. Le récollement, en fait, c'est justement le travail qui permet de vérifier que l'inventaire est exact, et ça se fait tous les 10 ans. Ça permet tous les 10 ans d'avoir un état précis de la collection.
Alors, s'il n'y a pas des pièces qui ont disparu aussi, accessoires.
Exactement. Mais c'est ça. 10 ans, ça peut paraître long, mais 50 000 objets, c'est beaucoup.
Mais c'est ça, bah oui.
C'est un travail qui se fait en permanence, en fait.
Oui, c'est ça. Et les chercheurs, j'imagine, qui viennent demander, à étudier des objets, est-ce qu'ils sont nombreux ? Enfin, comment ça se passe ? Oui, Manon ?
De plus en plus. Là, actuellement, vraiment là, entre 2024 et 2025, on travaille beaucoup justement sur la collection des restes humains. On a été approché à la fois par un doctorant en médecine générale à Rennes 1, qui a étudié certains de nos squelettes sur une période donnée par le biais de la paléopathologie. Donc il se formait, je crois, cette année à ça.
Plutôt pour être médecin légiste, peut-être ?
Même pas, c'est vraiment une passion sur l'histoire médiévale. Et puis, de fait de son métier de médecin, donc nous, on est super contents, évidemment, parce qu'on va apprendre plein de choses.
On ne sait pas encore, oui.
En fait, il y a eu des études préliminaires, vraiment préliminaires, dans les années 90, qui ont été effectuées juste sur un échantillon de squelettes, parce que quand même, 250 sépultures, ça fait. Et puis, c'est pas juste des... parfois, on va avoir des sépultures individuelles, mais parfois, elles seront multiples, parce qu'il y a des réductions pour faire de la place, ou voilà, pour d'autres raisons. Mais du coup, en fait, ça fait beaucoup plus de squelettes que 250. Sinon, très récemment, donc l'année dernière, on a participé à un projet avec le centre de recherche de Max Planck et Harvard, en partenariat avec l'INRAP, sur la peste de Justinien. Alors, juste pour faire court...
Faut nous redire à quelle époque à peu près c'est.
Voilà, alors c'est fin 6e siècle, moitié 8e siècle. Donc on dit peste de Justinien parce que ça a commencé pendant l'empereur, son règne, l'empereur Justinien. Mais ça a quand même duré 2 siècles et ça s'est étalé du coup jusqu'en Europe. Et donc là, le centre de recherche à la fois de Max Planck et Harvard, eux, s'attachent à savoir si justement, notamment en France et notamment en Bretagne, si ces populations ont été touchées. Et donc, on a fait un...
Oui, parce que l'empereur Justinien, sa peste, elle est partie de Turquie, l'actuelle Turquie à peu près, c'est ça ?
C'est ça, Égypte, ouais. Turquie, l'origine du virus. Et donc grâce à ce projet, on va pouvoir analyser certains échantillons de nos squelettes de Landévennec, à la fois sur ce pathogène ancien, mais aussi sur 100 autres pathogènes anciens connus. Et aussi des recherches génétiques.
Donc, et c'est ça.
C'est super intéressant. On n'a évidemment pas les résultats, ça va prendre un petit peu de temps. Mais du coup, là, c'est vraiment les actualités collection, on va dire, d'études. C'est vraiment sur les restes humains, c'est assez centré là-dessus. Ouais.
Et Ganelet, quand il y a des expositions, c'est l'occasion de refaire des études peut-être ? Non ?
C'est ça, tout à fait. Alors en fait, oui, pour compléter ces questions des collections d'études, en réalité, en fait, c'est un devoir du musée de d'étudier les collections. Elles ne sont pas censées rester collections d'études, et puis en plus, il y en a un certain nombre qui sont, on a dit, difficiles à conserver, donc ils ne se conserveront pas 40 ans, et donc il faut que les études soient faites, et donc le musée essaye d'organiser autant qu'il peut un agenda, en fait, en quelque sorte, de ces études. Ouais. En fait, un musée, c'est vraiment un centre de recherche. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte.
Non, les gens ne s'en rendent pas compte.
Mais c'est vraiment comme ça que c'est fait, et en fait, c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui. Hein. Les expositions, elles se font aussi, elles sont complètement un écho de ces travaux-là, oui. Et elles accompagnent aussi leur propre recherche, c'est-à-dire que par exemple on a travaillé sur l'environnement, mais on a fait des enquêtes sur les collections d'études, des tests pour vérifier que c'était possible, par exemple, d'avoir des analyses parasitologiques, essayer de tester un peu nos sédiments pour voir ça. Donc, on a eu des bons résultats, donc on est content. C'est une étude qui est possible à faire à l'avenir. Et donc, effectivement, bah, tout ça travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on va répondre aux attentes, aux questions des chercheurs selon leurs propres besoins à eux. Donc, on essaye de profiter aussi de leur programme de recherche. Et puis, parallèlement, on essaye aussi de gérer autant que possible ces études qu'on doit faire à terme pour traiter nos collections.
Et là, l'expo du moment, c'est les non-humains, je le rappelle. Et on ne peut pas déjà dire quelle sera la prochaine. Non, c'est trop tôt.
Non.
J'ai essayé quand même.
On peut dire sur quoi on travaille. Après, c'est pas sûr que ce soit celle-ci qui soit choisie définitivement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, on a encore une fois des thèmes qui essayent justement de travailler sur la collection. Donc, on avait commencé par travailler, je sais pas si vous vous souvenez, sur la période carolingienne, parce qu'il y a des choses à mettre à jour du point de vue scientifique là-dessus. Pareil, la période romaine, ça a été l'occasion d'une grande publication qui était importante pour l'histoire pour la connaissance de l'abbaye avec une étude inédite en 2022. Là, on est sur l'environnement parce que justement, c'est l'actualité des collections d'études et qu'on a envie de relancer ces travaux sur nos restes organiques. Et puis, on espérait avoir une nouvelle période l'année prochaine, une période qui n'a encore pas été trop étudiée. Et en particulier, on pensait au XIIIe siècle, c'est une époque où l'abbaye de Landenay, qui est un château fort, c'est pareil, c'est assez peu connu de la part du grand public.
Ah bah non, mais je dirais totalement, c'est un château fort.
Il y a un château fort, en plus, où elle est
fortifiée. Quoi.
Ouais, oui. L'abbaye est dans un château fort, c'est-à-dire qu'elle est vraiment construite avec des fortifications qui sont dans l'abbaye. Quoi. C'est vraiment... ça devait être assez splendide. Et puis, par ailleurs, c'est vraiment très intéressant en termes historiques sur la Bretagne féodale. Donc, voilà, je ne vais pas trop en dévoiler. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Alors, c'est une possibilité. Ensuite, il y a d'autres périodes sur lesquelles on aimerait aussi approfondir en fait, les travaux qui ont été faits jusqu'ici, toujours avec Annie Bardel et Ronan Perrinet.
On est d'accord que les fouilles, proprement dites, sont terminées. Mais est-ce que si, justement, en étudiant les objets, cette collection d'études, il y avait des choses particulièrement nouvelles qui surgissaient, enfin, des éléments, est-ce que vous pourriez envisager, l'autorité, le département peut-être, pourrait envisager de refaire des fouilles très partielles sur un petit secteur, enfin...
Ouais, nous on décide pas de ça, non. Évidemment. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, en fait, on a un service de conservation qui est prêt, avec Manon qui a rejoint l'équipe, donc ça c'est important. Et puis on prépare, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, ces sols, ils resteront là. C'est-à-dire que même si c'est pas, ces fouilles, elles se font pas de mon vivant ou du vivant de Manon, pendant que nous on est là, elles sont toujours possibles. Donc c'est un patrimoine aussi, le patrimoine archéologique sous terre, il faut aussi le préserver. Et donc c'est possible. Et puis par ailleurs, effectivement, on pourrait imaginer d'avoir des grandes découvertes qui nous encouragent à faire des fouilles supplémentaires.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de grande révolution dans les études des objets qui ont été faites, ou s'il y a quand même eu des découvertes marquantes
par rapport aux collections d'études. Il y a notamment, en fait, en termes de perspective et de projet de développement, Manon parlait des études paléogénétiques. Effectivement, en fait, nos collections d'études, quand elles ont été sorties du sol, il n'y avait pas encore cette technique-là qui était disponible.
C'est ça. Mais oui.
Avec leur arrivée, mais on parle de la génétique, mais on parle aussi des isotopes. En fait, il y a beaucoup de méthodes qui deviennent non seulement disponibles, mais en plus abordables sur le plan financier.
Et les isotopes, ça permet quoi? Une meilleure datation? C'est quoi?
J'ai dit un peu. Ça permet, par exemple, d'avoir des informations sur la circulation des individus, la circulation des animaux. Enfin, ça s'applique aux mammifères, aux animaux en général. Et puis leur alimentation. Et ça peut être assez intéressant, par exemple, si vous avez des périodes de migration des populations humaines, ça peut être renseigné par ce genre d'indicateurs. C'est juste pour dire qu'en fait, on a plein de nouvelles méthodes qui sont progressivement mises en place. Et que du coup, nos collections d'études ont d'autant plus de valeur grâce à ces nouvelles techniques. Et effectivement, on peut imaginer que s'il y a des études particulièrement concluantes sur le plan génétique, je sais pas, qui avaient lieu, et ben on pourrait tenter de vouloir étendre le corpus en faisant des fouilles supplémentaires. Mais ça, c'est pas du tout encore. Encore acté.
Oui, bien sûr. Et quelles sont les périodes les mieux représentées dans les collections, Manon, les périodes d'histoire?
Je dirais que c'est quand même. En fait, la période d'occupation est énorme, puisque ça va du coup de 5e, 6e jusqu'à la Révolution. Donc en fait, c'est tous les objets ou le mobilier archéologique, du moins, est représentatif de la vie quotidienne, du monastère à toute cette période d'occupation. Donc c'est vraiment très dense, et d'autant plus dense que les moines ont, comme je disais tout à l'heure, mais c'est qu'ils ont on est au-dessus d'un ruisseau et qu'ils ont dû remblayer énormément leur sol, ça a donné énormément de données archéologiques et donc de mobilier archéologique pour les archéologues, mais aussi pour nous aujourd'hui qui les étudions. Et donc ça renseigne sur toute la période d'occupation.
Mmh. Et est-ce que c'est exceptionnel le dépôt de l'abbaye de Landévennec, enfin, par rapport à d'autres sites archéologiques européens, mettons? Comment est-ce que vous vous situez?
Alors, exceptionnel du fait, j'y reviens toujours, mais c'est parce qu'en fait, c'est à caractère exceptionnel d'avoir vraiment autant en quantité des matériaux organiques conservés et qui sont encore en super état pour la plupart aujourd'hui.
Donc ça, c'est vraiment une particularité du site.
Ouais. En Bretagne, puis moi aussi...
En particulier en Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir d'autres sites en France, par exemple, qui auraient des collections organiques importantes. On en a aussi en Norvège, en Suède, il y a des choses comme ça. Mais en fait, en Bretagne, on a un sol acide. Et donc, du coup, par comparaison avec les autres sites bretons, effectivement, Landévennec, c'est tout à fait exceptionnel pour la région. Ouais.
Et vous avez des chercheurs qui viennent de partout ou pas? Quand ils viennent examiner les collections?
Eh ben pour le coup, là, la plus lointaine, c'était pour la nommer Solène Troadec, qui travaille du coup à Harvard. Donc oui.
Elle a quand même un petit nom breton, non?
Oui, elle est d'origine bretonne, c'est vrai. Mais bon, elle travaille là-bas. Donc pour le coup, c'était plus loin. Mais sinon, ça reste plutôt local.
Et ouais, quelle fréquence? Enfin, vous avez chaque semaine des chercheurs qui sont là ou
Non. Alors, pas chaque semaine, mais c'est une de nos missions, effectivement, à Guénolé et moi, d'accueillir les chercheurs et de faire connaître la collection. Et là, on a encore eu un échange d'une chercheuse la semaine dernière, là, justement, encore une fois, sur les restes humains, mais ça peut être aussi sur d'autres types de collections. On a eu, il y a 2 ans, sur les vers. Enfin, voilà, il y a beaucoup de...
Les verres VER, VER...
Les verres archéologiques, gobelets, vitres...
D'accord, la matière, verre. Et est-ce qu'il y a des objets qui ont le droit de sortir pour être étudiés ou envoyés dans des labos, par exemple ou,
Ouais, alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, en fait, la collection d'études, elle n'a pas trop vocation. Alors, autant la collection patrimoniale, elle est prêtée. Par exemple, c'est vraiment l'objet... Enfin, elle est faite pour ça, pour être présentée au public. Donc, ça fait partie de ses missions, d'être prêtée à d'autres musées pour présenter les découvertes de Landévennec ailleurs. Mais la collection d'études, elle n'a pas vocation à être prêtée pour des expos. En revanche, elle peut circuler pour l'étude, justement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Et par rapport à ces questions des mouvements de sortie d'objets, en fait, il y a aussi le mouvement des objets de la collection d'études vers la collection patrimoniale. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi assez fréquemment, en particulier dans le cadre des expositions temporaires, parce que dans ce cadre-là, justement, on va rendre des objets qui étaient auparavant fragiles, on va les stabiliser pour qu'ils soient présentables au public. Et en fait, dans ce cadre-là, ils deviennent durables et donc intégrables à la collection,
ah oui,
à la collection permanente.
Ah oui, ouais. Quand on les sort une fois, ça veut dire qu'on peut les laisser... les petites pommes, par exemple, les fameuses petites pommes, elles peuvent rester tout le temps.
C'est ça.
Présentées.
Alors, ça demandait un travail assez important.
Ah oui. Quel genre de travail, par exemple?
En fait, elles, ce sont des pommes donc du 7e siècle qui ont été retrouvées dans une canalisation d'eau, donc conservées dans la nappe phréatique, comme expliquait Manon. Et donc, du coup, elles ont été restaurées par le laboratoire Arcantique à Nantes.
Donc, on peut restaurer des pommes.
Voilà.
C'est dingue, ça, quand même.
Et donc, du coup, ça a donné lieu à une conférence dans le cadre d'un colloque international à Venise des restaurateurs sur la question de la restauration des pommes, parce qu'effectivement, apparemment, c'était jamais arrivé.
Incroyable.
De faire ça. Mais du coup, maintenant qu'elles sont restaurées, ce petit lot de pommes, parce qu'il nous en reste d'autres qui sont analysables, par exemple, pour la génétique, etc. Mais ce petit lot de pommes, lui, il peut intégrer la collection permanente parce que maintenant elles sont sèches et elles sont stabilisées. Ouais.
On les met dans on la lyophilise. Enfin, c'est quoi l'opération? Ça consiste en quoi, ouais, Manon?
Elles ont été lyophilisées par le laboratoire. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter qu'elles sont parce qu'on a un petit peu modifié notre parcours permanent également. Et donc il y en a certaines d'entre elles qui sont présentées dans l'exposition temporaire, pardon, et sinon quelques noyaux dans le parcours permanent.
Et le cercueil qui est dans la collection permanente, enfin qui est exposé, ça c'est pareil, ça a été un gros travail.
Bah, exactement, en fait c'est la même chose, c'est vraiment par un procédé de lyophilisation et puis de remplacer l'eau par un procédé chimique, enfin un produit chimique en fait. Et pour pouvoir le rendre présentable, qu'il soit dans un environnement qui sort complètement de son contexte d'enfouissement. Mais voilà, il y a quand même ça reste du bois, donc matière organique, donc il y a quand même les facteurs à respecter qui sont toujours pareils, la température, l'hygrométrie à respecter pour éviter qu'il s'effrite, qu'il gonfle ou à l'inverse, qu'il se rétracte. Donc ça, c'est la surveillance qu'on fait, Guénolé et moi.
Oui. Dans le musée lui-même, il y a des conditions particulières. Déjà, il fait assez sombre, hein, puis il y a d'autres dispositifs qu'on ne voit pas peut-être.
Principalement l'hygrométrie, on va dire qu'on essaye d'éviter. C'est-à-dire que l'hygrométrie, c'est la question de l'humidité dans l'air. Le problème de l'humidité, c'est que dès que vous avez un matériau qui absorbe, qui est hygrophile, qui absorbe l'humidité, en fait, il va gonfler et il va se rétrécir. Et sur des petits objets comme cela.
Ah oui, c'est pas la moisissure le problème numéro un, quoi.
C'est le problème mécanique. Ouais. Alors la moisissure, c'est un autre problème.
Ouais,
si ça arrive, c'est pas bon. mais du coup, si vous arrivez à avoir une hygrométrie qui est contrôlée, normalement, vous n'avez pas de développement de moisissure. C'est de la statistique, ça ressemble à la conservation préventive, ça ressemble beaucoup à la santé publique, si vous voulez. Vous avez un certain nombre de protocoles à suivre, et si vous les suivez, normalement, vous avez moins de chances d'avoir de problèmes que si vous ne les suivez pas. Après, vous pouvez toujours avoir un accident et quelque chose qui arrive sans... Voilà. Mais ouais, donc c'est ça, principalement l'hygrométrie, la température, et puis la poussière, voilà.
Et c'est un contrôle visuel, enfin pour le cercueil, où vous devez le sortir quand même régulièrement pour voir
Non, le sarcophage, il ne sort pas du musée.
Oui, d'accord. Non, mais pas du musée, je veux dire de sa vitrine.
Non, il ne sort pas. C'est un contrôle qu'on fait au quotidien, en fait, sur l'hygrométrie. Et puis sinon, c'est des poussiérages une à deux fois par an. Et voilà.
Au plémo.
Micro-aspirateur.
Ah, d'accord, c'est plus classe. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces collections du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, qu'on retrouvera certainement prochainement sur les ondes de Transistor. On peut réécouter les autres émissions sur notre site internet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.